et sœurs qui nous visitent, que Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez les salutations de Loïc Collinet, donc de Saint-Malo, nos frères et sœurs qui ont été là-bas en vacances. Il les a priés de bien saluer l'Église. Voilà, je vous ai transmis donc ces salutations. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous lis simplement un verset d'il y a 15 jours. Nous avons commencé sur le thème de la crainte de l'Éternel. Donc c'était le psaume 111. Je lirai simplement le verset 10 et nous irons dans la première épître de Pierre au chapitre 1er. Donc psaume 111, verset 10, il nous est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observe ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Amen. » Voilà, et dans la première épître de Pierre, nous lisons au chapitre 1er, 1 Pierre 1, 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Voilà, nous continuons un petit peu notre méditation donc sur la crainte de Dieu ce matin. Donc, cette crainte respectueuse qui est une marque, j'allais dire, une marque certaine de l'intimité que nous pouvons avoir avec le Seigneur. C'est une marque inéluctable de notre communion, de notre intimité avec le Seigneur. Donc cette crainte respectueuse de ceux qui connaissent vraiment le Seigneur, conscients de sa grandeur. Nous avons chanté plusieurs cantiques parlant de la grandeur, conscients de sa grandeur, de sa sainteté, de sa souveraineté, de sa grâce. Je crois que c'est bon de temps en temps de nous arrêter et de réfléchir, de méditer sur qui est Dieu. Jésus un jour a posé la question alors qu'il était avec les disciples et qu'il marchait avec lui depuis déjà des mois et des années, qui le suivaient, qui entendaient ses enseignements. À un moment donné, il s'arrête et il dit « Mais qui dit-on que je suis ? Que disent les gens me concernant ?» Et les disciples avaient bien capté la pensée de ceux qui étaient autour et qui disaient qu'il était un prophète ou Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes. Et quand il s'est tourné vers eux, il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Question quand même étonnante vis-à-vis de ceux qui marchaient avec lui, qui étaient avec lui depuis plusieurs années. Il leur pose la question « Qui dites-vous que je suis ?» C'est bon de nous arrêter et de dire « Mais qu'est-ce que je connais de Dieu ? Qu'est-ce que je connais de Dieu, de sa puissance, de sa gloire, de sa grandeur, de son amour, de sa grâce ? Oui, nous avons été touchés par la grâce. Oui, le Seigneur Jésus a touché nos cœurs, nous avons été convaincus, mais il est tellement grand. Il est tellement grand. Et on le connaît si peu, si on a un peu d'humilité, on va dire comme ça, on le connaît si peu par rapport à ce qu'il est. Mais lui, il veut se révéler dans ce qu'il est. Et c'est extraordinaire. Et la réflexion qu'on se fait, mais comment un être humain peut-il connaître ce Dieu, ce créateur de l'univers, ce Dieu qui est tellement grand, mais comment peut-on le connaître? Comment peut-on en définir un petit peu les contours? Ça me dépasse. Et déjà David disait, mais une science aussi grande dépasse mon intelligence. Il faut s'arrêter et pas prendre les choses machinalement comme, voilà, je connais Dieu, je marche avec lui, je le dis souvent, mais bon, ben, je le répète encore, mais c'est tellement précieux. Dieu est un Dieu de révélation. Et il se révèle progressivement dans le cœur de ceux qui ont soif, dans le cœur de ceux qui sont prêts à se remettre en question, parce que quand Dieu se révèle, automatiquement il y a du changement dans notre cœur. Si on veut rester pareil, on ne peut pas connaître Dieu véritablement. Mais Dieu se révèle à ceux qui sont capables de se changer, parce que la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, a un rapport direct avec notre marche avec lui, notre conduite dans la vie de tous les jours. Mais on va y revenir. Et je crois que la parole de Dieu a toute sa place dans une époque de superficialité. Je généralise toute la chrétienté, une époque de superficialité spirituelle. Je veux dire, il faudrait être aveugle pour pas le voir. On s'inclut bien sûr dedans, hein. Je juge pas, voilà. Donc on s'inclut, on est tous, la chrétienté en général a une spiritualité quand même assez superficielle, à part rares exceptions. Beaucoup de concepts purement humains concernant Dieu circulent. Une image de Dieu se dessine dans la pensée. Et voici, chacun voit Dieu à sa manière. La vie chrétienne, selon sa pensée. Et il y a une grande confusion. Ah, mais moi je vois comme ça, moi je vois d'une autre manière, moi je vois la vie chrétienne comme ça, moi je vois l'Église comme ça, moi je vois comme s'il n'y avait pas la Bible. Nous avons des conceptions purement humaines, par rapport à notre vécu peut-être, par rapport à notre non-expérience aussi avec Dieu. Nous pouvons avoir avec les lunettes humaines, eh bien, l'image de Dieu. Alors que la Bible est la révélation parfaite. Il n'y a que la Bible qui nous révèle qui est Dieu. L'image de Dieu. Il y a une confusion aujourd'hui terrible. On peut voir quelque chose et son contraire dans la même chrétienté. Et on se dit, c'est pas normal parce qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, un seul Seigneur. Comment il peut y avoir une telle diversité, mais ça peut aller de là, maintenant, aujourd'hui, jusqu'à là, à l'opposé, 180 degrés à l'opposé. Il y a le même Saint-Esprit et la même Bible. Donc, quelque part, le Saint-Esprit, je n'émets aucun doute, ni sur la parole de Dieu, mais je crois que c'est le cœur de l'homme qui va pas. Non ? Que Dieu nous aide à comprendre donc la notion de crainte de l'Éternel et n'est pas très populaire bien sûr, mais elle est biblique et elle occupe une place importante, mais tellement précieuse. Comme nous l'avons dit il y a 15 jours, la crainte de l'Éternel vient de la connaissance de Dieu par l'Esprit, par révélation, par illumination, et nous avons besoin plus que jamais, quand le Saint-Esprit nous convainc de qui il est. La crainte de Dieu s'installe dans notre cœur. Il ne peut en être autrement. Quand le Saint-Esprit nous convainc de qui est Dieu, il doit y avoir, sûr et certain, une crainte de l'Éternel, respectueuse, qui s'installe dans notre cœur. Parce que Dieu est tellement grand, tellement puissant, il est souverain. Quand on regarde... l'autre jour, je crois que c'était la nuit, c'était une nuit où on voyait bien les étoiles, non ? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé les étoiles? Non? Ah, je vois une main qui se lève derrière. Comment? Non, toutes les nuits, mais il y a des nuits où on voit mieux. Et donc, pour ceux qui ont des lunettes, des trucs astronomiques, peuvent voir. Hein, c'était une nuit particulière. Je ne sais pas si c'était vendredi soir, je crois. Mais quand on regarde, David ne pouvait pas ne pas s'exprimer dans le psaume 8 quand il regardait, quand je contemple le ciel, la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il est tellement grand et nous, parfois, bon, on croit qu'on est quelque chose. Hein. Bon, la Bible nous ramène à la réalité concernant l'homme, nous ne sommes qu'un souffle, une fleur qui est là, qui paraît, qui disparaît. Une vapeur qui est là pour un instant, qui disparaît. Et parfois, on a l'impression que sans nous, la terre ne tourne pas. Rassurez-vous, la terre tournera sans nous. Bon, peut-être il y en a qui en doutent, mais la terre tournera quand même. Et par rapport, dans le livre d'Osée, par rapport à l'idolâtrie du peuple, par rapport à l'éloignement du peuple, à la superficialité, le prophète Osée va exhorter ce peuple. Bien sûr à abandonner l'idolâtrie, bien sûr à se rapprocher de Dieu, mais la solution qu'il donne est catégorique. Osée chapitre 6 verset 3, il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Et au verset 4, il leur dit la réalité de leur foi. Il dit au verset 4, « Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt disparaît. » Voilà le problème. C'était, même s'il leur disait, « Mais l'idolâtrie, c'est pas bien. » Mais oui, on sait que c'est pas bien, mais il le faisait quand même. S'il disait, « Mais vous êtes loin de Dieu. » Mais oui, mais bon, c'est comme ça, c'est les circonstances, c'est le temps, c'est l'époque, oui. Mais cherchons à connaître l'Éternel. C'était là la solution, parce que quand Dieu se révèle, le péché, eh bien, on n'a plus envie. L'idolâtrie, on n'en a plus envie. C'est pas parce qu'on nous le dit, mais c'est parce que Dieu s'est révélé dans notre cœur. Et c'est cela qui est important. Et il faut que nous puissions, comme je l'ai dit il y a 15 jours, qu'une étincelle s'allume dans notre cœur et que l'on dise, mais si Dieu est bien plus que ce que je connais, alors je veux avancer. Si Dieu est bien plus grand que ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, et il veut se révéler, alors je vais le chercher. Et Dieu est un Dieu qui se révèle. Il se révèle. Alors, Osée leur dira, en quelque sorte, votre foi est très superficielle, et engendre un style de vie comme vous vivez, et nous pouvons transposer aussi, si notre foi est superficielle, notre vie chrétienne sera aussi peu profonde, légère, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner envie et soif d'aller plus loin. Moi, je crois que Dieu crée la soif dans nos cœurs. Ô Dieu, mon âme a soif de toi, dira David dans le psaume 63. Alors qu'avec Dieu, ces superlatifs n'ont rien à voir, c'est ni superficiel, ni léger. Dieu est un Dieu profond, Dieu est un Dieu qui agit en profondeur dans nos cœurs et dans nos âmes. Il n'agit pas à la surface, ça n'intéresse pas le Seigneur de bouger un peu nos émotions. Non, Dieu veut toucher le plus profond de notre âme, il veut toucher le plus profond de notre cœur, il veut toucher notre intelligence et notre volonté, il veut aller jusque-là pour que nos vies changent. Les émotions ne changent rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Il y en a, bien sûr, quand on s'approche de Dieu, il y en a qui pleurent, il y en a qui se repentent, il y a des émotions. Mais les émotions, ce n'est pas les émotions en elles-mêmes qui changent le cœur. C'est Dieu qui change un cœur. Dieu change notre cœur et il agit en profondeur. Alors, quand vous lisez quelques ouvrages, et il y en a au comptoir de librairie, des ouvrages qui ont été écrits dans les siècles derniers, ça n'a rien à voir avec la chrétienté d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu quelques livres du 18e, 17e, voire 16e, des livres d'auteurs vraiment profonds, mais la spiritualité, la vie d'église n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui en ont lu? Levez la main, au moins je vois que, oui, il y a quelques mains qui se... Oui, voilà. Ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce qui a changé? Dieu a dû se dire, bon, dans le 16e, je peux me révéler, dans le 17e, dans le 18, ah, 19, là ça va commencer, et 20e, et 21e, alors je peux plus me... Non! Non, c'est pas parce que la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que trouverai-je la foi quand je viendrai sur la terre? C'est pas parce qu'il a dit ça qu'on est obligé de dire, ben, c'est fatal. Non, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même. Et il veut se révéler d'une manière profonde aujourd'hui. Profonde, capable vraiment de nous émerveiller encore, capable de nous bouleverser, capable de nous changer encore aujourd'hui. Amen. C'est notre Dieu. Même si les temps sont à la légèreté, un pasteur disait à l'époque, eh bien, la foi était comme un puits profond avec de l'eau. Aujourd'hui, c'est une flaque, une mare où on se trempe, on patauge dedans. Mais ça fait rien. Moi, je crois que Dieu veut se révéler encore aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce que la Bible me dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, heureusement que nous avons cette parole de Dieu qui nous instruit sur qui est Dieu, son caractère, ses attributs, son plan, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, et des exemples de personnes qui l'ont rencontré et les effets que cette rencontre ont eu sur eux dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ceux qui ont rencontré Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ça a provoqué en eux? Est-ce qu'ils disent, bon, ouais, j'ai accepté Dieu, et puis voilà, je continue. Mais jamais de la vie, ceux qui ont rencontré Dieu dans l'Ancien Testament, mais ils étaient complètement bouleversés. Vous les avez lus, mais je rappelle juste quelques versets. Par exemple, Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18, il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici l'image qu'il avait de Dieu. Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Et ça, c'est Salomon, c'est le temple, c'est le plus beau temple, celui de Salomon. Et il dit, mais combien cette maison paraît petite par rapport à la grandeur de Dieu. Mais comment, Dieu, comment tu veux habiter dans cette maison? Quelle notion avait-il de Dieu? Mais vraiment, quelque chose de profond. Il l'a rencontré, Salomon, dans cette nuit où il a fait cette prière et Dieu lui a parlé. Ah, c'est beau. Par exemple, dans le psaume 24, il est dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » C'est David qui disait cela. Dans le psaume 8, nous en avons parlé au verset 2, il dit « Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Psaume 93, verset 4, juste quelques « L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. » Verset 5, « La sainteté convient à ta maison. » Et la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous êtes d'accord, dans l'Ancien Testament, mais ni dans le Nouveau, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais moi je rajoute, on ne peut pas avoir la révélation de Dieu et continuer à vivre comme si rien n'était. Pas possible. Pas possible. Vous voyez, on a des progrès à faire. Hein. La route, elle est, c'est immense l'étendue de Dieu. Vous voyez comme la vie chrétienne, elle est exaltante. Vous voyez, une vie chrétienne charnelle, c'est morne, c'est nul. Voilà, ah, je viens, je lis, je fais, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. C'est pas ça que Dieu veut. Mais la vie qu'il nous communique, c'est une vie qui va de progrès en progrès. Une vie qui grandit dans la révélation et en même temps, il nous transforme de gloire en gloire. Ça, c'est la volonté de Dieu. On est triste et on est attristé. Quand on a connu un peu quelque chose de Dieu, on est vraiment attristé de l'époque dans laquelle on vit. Je vous assure, des fois, j'ai envie de pleurer. Mais c'est terrible quand on n'est plus intéressé par la gloire de Dieu, par sa sainteté, par sa grandeur, par sa toute-puissance, par la gloire de son nom au milieu du peuple de Dieu. Ça attriste. Ça attriste. Et quand on a connu un petit peu. Imaginez si ces grands hommes de Dieu, ces grands, je mets grands entre guillemets, des siècles derniers, revenaient aujourd'hui dans l'Église. Ils rentrent, ils sortent, ils disent on s'est trompé. Je vous assure, c'est comme ça. Mais moi je ne veux pas que ce soit comme ça. Il faut que le Seigneur puisse intervenir dans nos cœurs. Il faut qu'il transforme nos cœurs et bien sûr, par extension, qu'il transforme l'Église. Parce que Dieu veut se manifester, c'est son Église, elle lui appartient. Il a dit, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre cette Église-là, celle qui bâtit, celle qui glorifie son nom, celle qui se préserve du mal, celle qui veut rien avoir à faire avec le monde. C'est cette Église-là que Jésus bâtit, et c'est cette Église-là que Jésus a dit, je vous donne les clés du séjour des morts. Et le diable, l'enfer même, ne prévaudra point contre cette Église-là, celle qu'il bâtit, celle qu'il est en train de bâtir. Que Dieu fasse qu'il puisse bâtir avec chacun d'entre nous cette Église. La grandeur de Dieu, sa puissance, son amour, sa sainteté nous marquent, nous impressionnent, nous transforment, nous sanctifient. En tous les cas, c'est ce que nous lisons dans l'Écriture, les effets sont là. Rien à voir avec la religion, rien à voir. Et dans l'Ancien Testament, quand nous voyons Moïse qui monte sur le mont Horeb, et quand Dieu lui dit, ôte les chaussures de tes pieds, ce lieu est un lieu saint, c'est un lieu de révélation, un lieu où il a entendu la voix de Dieu. Vous savez, Moïse n'a plus jamais été le même, plus jamais. Je ne dis pas qu'en une expérience, on est complètement... Non, mais Moïse va prendre une autre direction, et il rencontrera Dieu régulièrement, dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, sur la montagne, sur le mont Sinaï, quand il recevra les lois, il rencontre Dieu régulièrement. Et quand nous rencontrons Dieu, il nous transforme à tel point que Moïse, quand le peuple le regardait, il ne pouvait pas le regarder parce que son visage était rayonnant. Il était obligé de mettre un voile. Vous voyez le contact avec Dieu ? Vous allez me dire c'est dans l'Ancien Testament, mais on va venir dans le Nouveau. Ne vous inquiétez pas. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe était déjà un prophète, mais quand il a cette vision de Dieu, cette révélation des chérubins, cette révélation du ciel, de la gloire de Dieu, mais c'est un homme qui va être complètement transformé. Mais quand il a rencontré, il dit, tout prophète qu'il est, il dit, « Malheur à moi, je suis un homme perdu. » Mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il était prophète. Et Dieu manifeste sa grâce, ce charbon ardent manifeste la grâce et dit « Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi. » Simplement à la lecture de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a des effets puissants. Vous vous rendez compte tellement ils avaient une crainte, mais dans l'Ancien Testament, c'était souvent même la crainte, la peur. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est plus la crainte, la vénération, le respect de Dieu, etc. Mais là, simplement à l'évocation des paroles de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Par exemple, dans Néhémie au chapitre 8, verset 9, il est obligé de dire... Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Pourquoi ils pleuraient ? Parce que ce qu'ils avaient entendu, ils l'avaient considéré comme la parole de Dieu. Comme ce Dieu grand, ce Dieu saint, ce Dieu glorieux, il est en train de leur parler, et comme eux étaient loin de Dieu, ils se sont mis à pleurer, mais à pleurer jusqu'au soir, on ne les arrêtait plus. Et il leur dit, non, non, ne vous affligez pas, c'est la joie de l'Éternel sera notre force. Ne vous affligez pas, arrêtez, vous avez entendu, vous avez été touché, c'est bon. simplement à l'évocation de la parole de Dieu. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 22, verset 11, c'est sous Josias, il est dit « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Quand même, il faut qu'il y ait un effet puissant pour que déchire les vêtements. C'était le symbole de l'humiliation, de la repentance. Ça va, on continue? Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Vous lisez, vous. Je ne fais que rapporter les versets. Dans Jérémie, au chapitre 36 et verset 16, « Lorsqu'ils entendirent toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres. » Mais dans le même contexte, en entendant la même parole, regardez au verset 23, il est dit, lorsque j'ai eu dit, eu là trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec un canif du secrétaire et le jeta dans le feu et le brasier, et il fut entièrement consumé. Vous voyez, quand il y a un cœur qui n'est pas disposé, quand il y a un cœur très superficiel, quand il y a un cœur fermé, la parole de Dieu, elle ne pénètre pas. Et elle le dérange, et elle accuse. Mais là, il nous est dit, oui, il a trois ou quatre feuilles, il les a arrachées, puis il a jeté tout le rouleau, certainement, dans le feu, et il a été complètement consumé. Bon, il y aura des conséquences, bien sûr, ce n'est pas le propos ce matin. Mais certains se sont regardés avec effroi en disant « Mais nous sommes loin de Dieu, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions ? C'est moi qui le dis. » Mais ils se regardèrent avec effroi. Oui, Dieu est un grand Dieu. On a tellement banalisé, on a tellement enfermé sous l'amour de Dieu, un amour mielleux, un amour qui passe sur tout. Non, c'est pas notre Dieu ça. Moi je crois dans l'amour de Dieu, et heureusement, parce que sinon on ne serait pas sauvés. Mais quand nous lisons bien la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'amour humain, sentimental, etc. Rien à voir. Des cœurs bien disposés et des cœurs fermés, superficiels, deux réactions complètement différentes. Mais c'est prophétique. Aujourd'hui, on ne coupe plus la Bible avec un canif et on ne la jette plus au feu. On ne jette plus tout ce qui nous dérange, mais seulement le zappe. On le met de côté. Et ça, c'est Paul qui le dira à Timothée, dans 2 Timothée 4, 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, le terme c'est qui chatouille, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre cœur. » Regardez, on ne coupe plus, mais on met de côté, on zappe, on jette, on n'écoute même pas. Mais même mieux, c'est pas on n'écoute même pas, c'est qu'il est dit « ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Alors, est-ce qu'on trouve des docteurs qui vont donner ce que le peuple désire? Mais oui, il y en a à foison, à foison. C'est sûr qu'on est le meilleur. On trouvera toujours des docteurs qui donnent aux croyants ce qu'ils désirent et non pas ce dont ils ont besoin. Et cela produit des croyants qui ne connaissent pas Dieu. Alors, la Bible... Alors que la Bible est comme une épée, elle est comme un feu, elle est comme un marteau, elle est comme... elle bouscule, elle percute, elle sépare, elle arrache, elle fait la blessure et elle la guérit. La parole de Dieu, c'est ça. Parce que c'est pas possible qu'une parole, elle vienne dans un cœur humain naturel et elle produise rien. C'est le jour et la nuit. Il y a un monde qui nous sépare. Donc quand la parole de Dieu vient, elle percute. Et encore aujourd'hui, la parole de Dieu nous percute. Pourquoi ? Pour nous abaisser, pour nous écraser ? Non, pour nous édifier, pour nous construire, pour nous, pour que nous puissions grandir. Oui, la parole de Dieu. L'analyse humaine... C'est un message, il ne faut pas qu'il dérange, un message plutôt tolérant, qui ne culpabilise pas, voilà. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est obligé Quand on se dit, Seigneur, c'est pas toi qui dois changer, c'est moi. Comment le fait-il? Il vient avec son épée. La parole de Dieu est une épée à... Voilà, Hébreux 4, 12, vous le relirez, tous les effets que ça a, cette parole, ça fait mal. Un marteau qui brise notre cœur dur, ça chatouille pas ça, hein? Un feu qui s'allume, Jérémie pouvait le dire, il en avait marre Jérémie, il dit non, je parlerai plus à ce peuple, ils veulent pas écouter. Et puis à un moment donné, il se reprend, il dit, mais Seigneur, il y a un feu qui me consume à l'intérieur, je ne puis le contenir. Je suis obligé de proclamer ta parole, je ne peux pas, je voudrais me taire, mais je dois le dire, parce que c'est ma mission, tu m'as envoyé pour cela. Et donc, voilà, Jérémie ne pouvait faire autrement. La chair refusera toujours cela. Elle sera toujours en contradiction avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, parce qu'elle est en guerre avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus révélait quelque chose de sa grandeur, de son amour, de sa puissance, de sa sainteté, quand il dévoilait un petit peu quelque chose, mais les gens étaient bouleversés. Luc, je crois que dimanche dernier, il l'a lu le jeune frère, dans Luc chapitre 5, verset 8, « Après la pêche miraculeuse, quand ils ont vu ce miracle de Jésus, Pierre dira à Jésus, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous les autres. Parce que Jésus va manifester quelque chose de sa puissance, ils vont être complètement bouleversés. Mais oui, Dieu doit nous bouleverser. Oui, Dieu doit nous bouleverser. Je ne dis pas qu'il doit nous faire peur, pas du tout. Parce qu'il y a, dans l'Ancien Testament, il y a eu la révélation de Dieu. Mais dans le Nouveau, la révélation, elle est pour tout le peuple. Parce que le sang de Jésus nous donne libre accès dans le sanctuaire. La révélation de Dieu, elle est illimitée et elle est pour chaque croyant. Dieu peut se révéler d'une manière extraordinaire au plus petit au milieu de nous. Parce que Jésus a payé pour ça, il n'y a plus de barrière. Le voile est déchiré, le chemin est frayé. Nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce parce que Jésus a payé. On ne peut pas avoir une vie superficielle ou monotone. Je me prêche, je vous prêche en même temps. Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies et dans l'Église. Peut-être on s'est tellement habitué au standard chrétien qu'on se dit c'est comme ça la norme. C'est notre Église, c'est tout à peu près, toutes les Églises. Mais c'est pas parce qu'on le dit, c'est pas parce qu'on le pense que c'est la réalité. Moi je crois dans ce que la Bible nous dit. Et vous croyez aussi dans ce que la Bible dit. Et le standard que nous voyons aujourd'hui n'est pas du tout le standard de Dieu. Mais c'est bien au-dessus, bien au-delà, le standard de Dieu. Pourquoi en rentrant dans ce lieu, vous pensiez que c'était bon? Non? Si? Que Dieu nous aide. Et que d'expressions dans le Nouveau Testament, émerveillés, tombant à genoux, glorifiant Dieu, saisi d'effroi, de stupeur, de frayeur, tout tremblant, etc., devant la grandeur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il ne les écrasait pas, mais il les relevait. Mais même dans l'Apocalypse, quand nous prenons Apocalypse au chapitre 1er, verset 17, il est dit que quand il le vit, il tomba à terre comme mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il pose sa main sur lui et le relève. La révélation de Dieu nous bouleverse. Je parle d'une révélation par le Saint-Esprit, une expérience profonde, quelque chose comme ça, pas quelque chose qu'on a lu, on est d'accord, on y croit. C'est bien, mais c'est largement pas suffisant. On est d'accord, bien sûr, on est d'accord avec la Bible. Qui ne serait pas d'accord? Si on pose la question, on est tous d'accord. Vous allez peut-être me dire, mais c'était quand même des circonstances particulières, des exceptions, etc. les circonstances étaient dans ce sens-là, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, ce que Dieu désire et ce que Dieu veut, le plan de Dieu dans le Nouveau Testament, quand nous lisons le Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu veut ? Au travers de Jésus, il l'a dit, et plusieurs fois, Jésus a prophétisé sur ce que serait la vie chrétienne. Par exemple, dans le cep et le sarment, il dit, il nous aimons afin que nous portions encore plus de fruits. Il parle même d'une amitié. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, ami de Jésus. Waouh, c'est quelque chose, hein ? Mais c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour chacun d'entre nous. Jésus a prophétisé sur ce que serait cette vie. La méditation attentive des actes des apôtres et des épîtres nous montre que ces expériences avec Dieu ont marqué ces personnages. Paul, les apôtres et d'autres des disciples parlent de la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Dans les épîtres, il est parlé de plénitude, rempli jusqu'à toute la plénitude. Il est dit d'un esprit de révélation. Il est dit que Dieu révèle à ceux qu'il aime des choses qu'il a cachées. Est-ce que c'est pour nous ? Vous lisez dans 1 Corinthiens 2, on n'a pas le temps de le lire, vous le lirez. Dans 1 Corinthiens 2, il dit que Dieu a caché des choses qu'il révèle à ceux qu'il aime par l'Esprit. Par l'Esprit. Donc Dieu a des choses à nous révéler par l'Esprit. Des choses qui sont précieuses, importantes, profondes, qui sont capables de changer encore notre vie. Et qu'on ne se dise pas, voilà, je suis chrétien, ça marche comme ça, l'Église c'est ça. Non, sans regarder ailleurs, regardons à nous. Mais disons, Seigneur, voilà, on veut marcher dans ton plan. On veut vraiment que ces choses se manifestent dans notre vie. Il faut déjà que cette étincelle s'allume et que nous disions, oui, c'est possible pour moi. Alors, puisque Dieu ne doit pas changer, c'est moi qui dois changer. Comment je dois changer ? Comment je dois le chercher ? Comment je dois, est-ce que je dois passer plus de temps ? Je dis oui. Est-ce que je dois disposer mon cœur différemment ? Je dis oui. Est-ce qu'il faut méditer davantage la parole ? Je dis oui. Est-ce qu'il faut élaguer dans ma vie des choses que déjà je sais qu'elles me prennent du temps et qu'elles m'empêchent ? Oui, 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 tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le Saint-Esprit nous atteigne. Il faut que le Saint-Esprit touche notre cœur. Ça, c'est miraculeux, c'est surnaturel, ça ne s'invente pas. Dieu ne se révèle pas, quelqu'un nous dit comment il est, même dans la Bible. On le croit, mais c'est sûr que c'est bien de le croire, mais il faut que le Saint-Esprit l'imprime dans nos cœurs et que ça change nos vies. Ça, c'est la vie chrétienne que Dieu veut, que Jésus a voulu, que le Saint-Esprit veut. Il parle de plénitude, de gloire, de connaissance spirituelle, d'illumination, de transformation. La normalité de la vie chrétienne, de la foi, de la vie d'Église, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors il y a juste un autre petit aspect concernant toujours la crainte de l'Éternel, c'est par rapport à la conscience de sa présence. Et je resterai juste pas longtemps, mais la conscience de sa présence. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus est là ? Vraiment ? Est-ce que nous sommes conscients que Jésus est là où nous sommes, chez nous ? Là où nous travaillons, là où nous évoluons, là où... Cette conscience, bon, je réponds pour vous, nous ne l'avons pas toujours et pas souvent. Voilà, au moins c'est dit, même des fois ici. Donc le Saint-Esprit nous rend conscients de la présence de Dieu, de Jésus, là où nous sommes. Et il n'est pas seulement ici, il est partout. Dans Genèse 28, au verset 16, il est question de Jacob, qui ne connaissait pas encore l'Éternel, mais qui en avait entendu parler depuis son enfance. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Vous voyez quel bouleversement pour ce... Bon, il avait une vie qui n'était pas tout à fait, voilà, dans les clous. Mais il avait entendu parler de Dieu, d'éducation depuis petit. Mais d'un coup, dans la nuit, il a un songe, et ce songe va le marquer. Il va le marquer, certainement. L'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Le Saint-Esprit veut nous rendre conscients de la présence de Dieu dans notre vie, dans l'Église, dans notre vie. Mais vous savez, si on est conscient de la présence de Jésus, ça change beaucoup de choses. Non ? Ça change beaucoup de choses. Ça va véritablement nous amener avec ces barrières dans ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons, la vie que nous menons. Parce que parfois on a l'impression, voilà, que le Seigneur est là, on sort de l'église, enfin du lieu de rassemblement, parce que l'église c'est nous, c'est pas les bâtiments. Donc on sort du lieu de rassemblement, voilà, c'est comme si voilà, Dieu ne nous voit plus et ne nous entend plus. Mais Dieu nous entend. Et dans le psaume 139, quand nous voyons l'expérience de David, il avait une connaissance profonde de Dieu, mais il parle dans le psaume 139 de l'omniscience de Dieu. Il dit, mais une science aussi grande, elle est au-delà de notre portée. Mais il parle aussi de l'omniprésence de Dieu. Il dit, des fois, j'en ai assez, je voudrais aller courir dans les ténèbres, mais voici, Dieu est là. Et je veux aller à l'Orient, et Dieu est là. À l'Occident, Dieu est là. Mais Dieu est partout. Il dit, mais où fuirais-je? Où irais-je? Loin de ta face. C'est impossible. Dieu est partout. Ça change les choses de savoir, de réaliser, d'être convaincu, d'être conscient de la présence de Dieu. Moi, je crois qu'il y a des choses qu'on ne dirait plus. Il y a des lieux où on n'ira plus. Il y a des actes qu'on ne fait plus. Il y a des... Non ? Si on est conscient, et le Saint-Esprit veut nous rendre conscient de la présence de Jésus, là. Et d'ailleurs, je crois que j'ai lu ce verset, mais dans 1 Corinthiens 14, j'ai plus le verset, mais ça doit être vers 25-26 par là, où l'apôtre Paul dira, mais quand il y a une prophétie, quand il y a quelque chose qui vient de Dieu, le cœur est dévoilé, la pensée est dévoilée. D'un simple auditeur qui va rentrer, les pensées de son cœur sont mises à jour. Et il dit, et cet homme tombera sur sa face et publiera que Dieu est réellement au milieu de l'Église. On a besoin, frères et sœurs, de cela. C'est un combat, c'est un but, c'est un des buts. Réalisons ce matin, je termine. Réalisons ce matin que le Dieu en qui je crois, en qui nous croyons, est un Dieu qui se révèle progressivement dans nos cœurs. Des cœurs bien disposés, des cœurs qui ont soif, des cœurs qui sont prêts à laisser Dieu agir dans le cœur, dans la conscience, dans la volonté, dans l'intelligence. Soyons prêts à être transformés. Et on se dit, mais si Dieu se révèle dans ma vie, eh bien ma vie va changer. Il y a des choses qui vont changer dans ma vie, des choses que j'avais l'habitude, des choses qui peut-être pour moi me dire mais c'était pas mal ce que je faisais, mais d'un coup on va dire il faut que j'arrête ça. Le Saint-Esprit nous convainc. Des choses qui humainement ne sont pas des péchés, des choses, mais aux yeux de Dieu, ce sont des choses qui nous empêchent d'aller plus loin. Donc notre vie, si on n'est pas prêt, on se dit, moi je suis bien comme je suis, voilà, je suis sauvé, etc. Ben, voilà, Dieu ne nous forcera jamais. Si tu es converti, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Quand tu es satisfait de cela, il n'y a plus de progrès, et finalement, on est stoppé. Même en étant baptisé du Saint-Esprit. La vie avec Dieu, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit est elle est là, elle est appelée, même le salut, il est appelé à se développer, à grandir, à croître, à s'édifier, à s'étendre, à déborder, à rejaillir à l'extérieur. Ça, c'est la vie de Dieu. Dans le plan de Dieu, dans sa vision à lui, cette semence devient une belle plante qui porte du fruit, encore plus de fruits, et c'est aussi cette source, ce petit, qui devient un fleuve d'eau vive. Jésus le dira dans Matthieu 7, 38, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein et jailliront jusque dans la vie éternelle », comme dit l'Écriture. C'est cela la vie chrétienne, c'est l'Église, c'est la foi, c'est la vie de Dieu, c'est la vie avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. Pour chacun d'entre nous, quelqu'un dit « mais moi je suis faible », mais Dieu te fortifie. Quelqu'un dira « mais moi j'ai pas trop de temps », mais Dieu va t'aider à en trouver. Quelqu'un dit « mais je suis dans un contexte difficile », Dieu dit « mais tu vas te cacher, je vais te cacher et là on va se rencontrer ». Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu, rien. Qui peut empêcher Dieu de se révéler dans un cœur. Oui, mais si vous saviez, frère, dans ma faim. Mais Dieu, Jésus est venu pour cela, pour nous guérir, nous fortifier, nous délivrer. Que Dieu soit béni, c'est la vie chrétienne. Maintenant, c'est un combat, et je termine vraiment sur ça, c'est un combat. Tout s'opposera, et tous s'opposeront à cela. À ce que l'Église soit l'Église. À ce que ma vie chrétienne, elle puisse être remplie du Saint-Esprit, elle puisse porter du fruit. Tout s'opposera, le diable en premier, bien sûr, mais tout s'opposera. C'est un combat, c'est une lutte. Et nous devons, c'est ça notre combat, afin que Dieu puisse nous parler, Dieu puisse nous visiter dans notre lieu secret, Dieu puisse nous diriger là où nous devons aller, qui nous devons voir, à qui nous devons parler, la sensibilité du Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. C'est même pas tout ce que je vais faire, ce que je sais faire, c'est bien ça. Mais il se peut que ça porte pas de fruits pendant 40 ans. Et Dieu nous a appelés à porter du fruit. Dieu nous a appelés à ce que l'esprit qu'il a mis en nous puisse grandir, se développer et voir des choses grandes et glorieuses. Tout s'opposera. Tout s'opposera, mais Christ est mort et ressuscité pour que nous portions du fruit, pour que ces fleuves jaillissent. C'est là, c'est cette Église-là que le Seigneur veut. C'est cette Église-là dont les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est cette Église-là. La connaissance spirituelle de Christ nous amènera toujours à une crainte respectueuse de Dieu. Toujours. Dans nos paroles, il y aura des barrières, dans nos actes, dans nos pensées, dans notre vie de tous les jours, il y aura des barrières, il y aura des moments où il y a le signal qui s'allume, on ne peut pas. Il y a des choses qui doivent être stoppées. Et ça, c'est la crainte de Dieu. Je ne le ferai pas, je ne le dirai pas, parce que, eh bien, j'aime Dieu, je veux l'honorer, je veux le glorifier, je veux vénérer son nom, et ça, je ne peux pas le faire. La crainte de Dieu, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il y a des fréquentations, il y a même des lieux, il y a des endroits où, mais le Seigneur connaît chacun de nos cœurs, il sait l'endroit où nous sommes, exact. Et il agira là où nous sommes. À partir de là où nous sommes, il nous prend par la main et il nous amène plus loin. Le prophète Ézéchiel, il lui dit, avance en pleine eau. J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Je suis bien, c'est quand il fait chaud. J'ai vu là des images aux infos, les gens, ils restaient les pieds dans l'eau, au bord de la plage, et puis ils étaient bien. Mais c'est bien d'avoir de l'eau, ça rafraîchit. Mais le Seigneur dit, plus loin, jusqu'aux genoux. Et plus loin, jusqu'aux reins. Mais ce n'est pas assez. Mais quand même, j'ai une vie de prière maintenant, j'ai la vérité dans ma vie, c'est plus loin. Ouf, mais là, j'ai plus pied. Mais c'est là où Dieu veut. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce programme? Alors, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Seigneur, quel amour tu as. Tu ne veux pas nous sauver comme au travers du feu? Mais tu veux façonner nos vies à la ressemblance de Jésus. Quelle grâce, quel privilège, un pécheur tel que moi, nous l'avons chanté, et je le fais mien, un pécheur tel que moi. Seigneur, tu veux révéler quelque chose encore de toi, de ta grandeur, de ta sainteté. Mais quel miracle! Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis celui peut-être qui se sent opprimé, fatigué, dans un contexte difficile. Seigneur, dis-lui toi, parce que moi ça ne portera pas, mais dis-lui toi par le Saint-Esprit que tu es avec lui, avec elle, dans ce lieu difficile. Seigneur, et que tu veux transformer sa vie, sans parler des autres, sa vie à lui, à elle. Seigneur, merci pour les projets que tu as. Ça nous montre quel amour immense tu as pour nous, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Conduis nos vies, conduis nos vies, conduis l'Église, Seigneur. Tu vois combien tout nous pousse à la routine, aux habitudes, Seigneur. Et Seigneur, mais aide-nous à réagir, à nous faire violence, à laisser ta parole percuter nos cœurs, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Bénis les familles que nous représentons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.